Bonsoir, et maintenant, que va-t-il se passer en Iran? Une semaine de troubles, une semaine de manifestations, de répression, une vingtaine de morts, des centaines d'arrestations. Comme hier, des rassemblements pro-régime ont eu lieu dans des grandes villes iraniennes au lendemain de cette déclaration du pouvoir qui proclamait la fin de la sédition. Et parallèlement, les manifestants qui protestent contre le coût de la vie ont, semble-t-il, levé le pied. Alors pour combien de temps est-ce que la révolte peut reprendre? En tout cas, quelle que soit l'issue, quelles en seront les conséquences économiques, diplomatiques? Avec cette question, l'Iran redevient-il un pays à risque? Voici les décodeurs de l'écho.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Oui, comme tous les soirs dans les décodeurs de l'écho, tout au long de l'année, y compris même en ce début d'année 2018, les meilleurs experts, les meilleurs spécialistes. Tenez, Bernard Ourcade est avec nous, directeur de recherche au CNRS, spécialiste de l'Iran. Il avait co-signé il y a quelque temps l'Iran au XXe siècle. Autre grande spécialiste, Azadeh Kian. Elle est sociologue franco-iranienne, professeure à l'université Paris Diderot et signataire, auteur de « L'Iran, un mouvement sans révolution ?» point d'interrogation. Nigel Coulthard, président du cercle Iran Economist, un think tank qui dirige également une société de conseil, Oroc, Orient Occident. Et puis Benjamin Louvet, gérant matières premières chez Ophi Asset Management. Alors, hier donc, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté à travers le pays pour apporter leur soutien donc au régime, aux leaders religieux. Idem encore aujourd'hui, je vous le disais. Il y a eu ce rappel à l'ordre également du guide suprême, Ali Khamenei. Et puis ce sont les gardiens de la révolution, l'armée d'élite du pouvoir, qui l'affirmaient hier, la sédition est terminée. Vrai? Faux? Bernard Ourcade?
L'avenir le dira, mais c'est le travail normal, disons, des gardiens de la révolution, c'est leur métier, de dire l'ordre est maintenu et les menaces que je pouvais faire sur les manifestants ou la réalité de ma répression fait que le travail est terminé. Donc il ne faut pas trop s'inquiéter de ces paroles. Ensuite, le mouvement est là, il a eu lieu, il y a eu 8 jours de manifestations importantes, le message est passé. Et donc même s'il n'y a plus de manifestations dans les jours qui viennent, l'essentiel a été dit. Un phénomène nouveau est apparu. Ce n'est pas ces manifestations, c'est pas le nombre de manifestants qui est important, mais c'est la nature de ces manifestants. C'est nouveau par rapport à 2009. Et donc là, il y a un phénomène nouveau qui est arrivé. La balle maintenant est dans le camp du gouvernement. Le message est bien passé.
Azadeh Kian, le mouvement a eu lieu, dit Bernard Ourcade. Ça veut dire quoi que le mouvement s'est dégonflé? Cet après-midi, il y avait le président turc, Monsieur Erdogan, qui était donc à Paris en visite officielle. Il cite son homologue iranien. Il dit que la situation va se stabiliser d'ici un ou deux jours en Iran. Alors, qu'est-ce qu'il faut penser?
Tout d'abord, il ne s'agissait pas réellement d'un mouvement social. À mon sens, il s'agissait des émeutes de la part des jeunes issus des classes populaires qui sont au chômage, qui sont pauvres et qui n'en peuvent plus, puisqu'à côté, ils voient énormément de corruption. Et c'est un pays riche, l'Iran, vous le savez, revenus pétroliers, gaziers et autres, qui ne sont plus redistribués. Donc, le régime islamique...
Troisième réserve pétrolière au monde, sixième producteur de pétrole, voilà.
Deuxième réserve mondiale de gaz. Okay, et en même temps, la redistribution de la richesse nationale ne se fait plus, du fait de la baisse notamment des revenus pétroliers, mais également du fait d'une corruption très importante. Donc, si vous voulez, il ne s'agit pas réellement d'un mouvement social. Il s'agit des protestations, mais il ne s'agit pas que des jeunes issus des classes populaires qui sont mécontents. Voilà, il s'agit aussi des retraités, il s'agit des ouvriers. Il y a 5 syndicats ouvriers, par exemple, qui ont aussi dit leur mécontentement. Il s'agit aussi des personnes, des Iraniens lambda qui avaient placé leur argent, leur petite épargne dans des banques qui ont fait faillite. Or, les directeurs de ces banques, comme par hasard, ont quitté l'Iran avec l'argent de ces petits gens. Donc, si vous voulez, il y a un ensemble de mécontentements et c'est peut-être fini en termes de manifestations, mais ces mécontentements vont continuer.
C'est peut-être fini en termes de manifestations, vous nous dites, le calme est revenu. C'est quoi? C'est une pause dans la révolte ou est-ce qu'elle peut reprendre demain vendredi, jour férié, jour de prière? Est-ce qu'éventuellement
bien à nouveau, on peut voir du monde dans la rue contre le régime, enfin en tout cas pour protester contre le coût de la vie notamment.
Pas forcément contre le régime. Pourquoi le régime?
Alors,
il y a un gouvernement en Iran, il y a une droite, une gauche, des conservateurs, des gens plus progressistes. Il y a un débat politique et ma foi, ces manifestations, qui heureusement n'ont pas fait des centaines de morts, 20 c'est beaucoup trop, mais qui ont été relativement contrôlées, expriment une certaine bonne santé démocratique, je dirais. Les gens en Iran ont réussi, à force de lutte, à pouvoir s'exprimer. Il y a des grèves régulièrement en Iran, des manifestations régulièrement tous les jours, que l'on ne sait pas, parce que c'est dans un endroit perdu. Cette fois-ci, ça s'est manifesté de façon massive. Mais ce qui est important, c'est que le rapport de force est là. Et aujourd'hui, le gouvernement iranien a bien mesuré qu'il y avait vraiment là un problème. Il avait mesuré en 2009 qu'il y avait un problème démocratique sur les élections. Une catégorie sociale s'était révoltée et fortement. Aujourd'hui, une autre catégorie. Il faut faire un peu attention. Je serai au gouvernement iranien. Je me constaterai qu'il y a deux groupes sociaux importants qui posent des questions.
Oui.
Mais en même temps, si vous voulez, afin que le gouvernement puisse répondre réellement à ses mécontentements, à ses revendications légitimes des pans entiers de la population, tout le monde ne manifeste pas. Des classes moyennes, classes supérieures, qui sont des composantes les plus importantes du mouvement vert de 2009, ne sont pas dans la rue, mais ils sont mécontents aussi. Il faut introduire des réformes structurelles profondes dans l'économie iranienne. On va en parler.
Bien entendu, une partie
des problèmes, effectivement, est liée aux sanctions américaines.
Surtout que certaines ont déjà été mises en place, ces réformes, par le président de la République actuelle.
Pas suffisamment, vite. Mais bon. Puisque quand le président Rouhani, avant-hier, a annoncé lui-même qu'il ne maîtrise qu'un tiers de son budget, que les deux tiers vont dans des caisses de qui? Alors, des institutions religieuses, des gardiens de la révolution, des fondations.
Ouais.
Donc, c'est ça. Donc, une réforme structurelle économique, l'ouverture politique sont les seules réponses qui peuvent calmer les mécontents iraniens.
Benjamin Louvet, Ophi Asset Management.
Oui, je crois que ce que vient de dire la question est très juste. Et il faut bien faire la différence entre ce qui s'est passé en 2009 et ce qui est en train de se passer là. En 2009, c'était un mouvement pour la démocratie et parce qu'on avait le sentiment que les élections avaient été volées.
À la suite de la réélection d'Ahmadinejad, très contestée, l'ancien président de la République. Et en effet, on était au-delà de la vingtaine de morts à ce moment-là.
Là, oui, on était à plus de 150 morts, si je me souviens bien. Mais là, on est vraiment dans une logique différente. C'est une complainte économique. C'est les Iraniens n'en peuvent plus de la difficulté économique de vie au quotidien. Il y avait une inflation qui était très forte, qui a un peu baissé, même bien baissé depuis
l'inflation qui est passée de 40% à 10% grâce à une politique monétaire et budgétaire.
Puis la levée des sanctions a sans doute aidé un petit peu. Mais en fait, je crois que le peuple iranien aujourd'hui montre son mécontentement parce qu'en fait, il avait nourri beaucoup d'espoir dans l'élection de Rouhani, dans la possibilité avec le gouvernement Obama d'arriver à sortir de cette situation et de pouvoir croire à un nouvel Eldorado économique et à une renaissance économique de l'Iran. Et cette renaissance a été confisquée avec l'arrivée de Trump. Il y a des nouvelles sanctions, des discussions sur des nouvelles sanctions qui doivent être votées la semaine prochaine, le 15, je crois.
Est-ce qu'on doit tout mettre sur le dos de Trump, arrivé finalement qu'il y a quasiment un an.
C'est pas forcément mettre tout sur le dos de Trump, mais Trump a mis un coup d'arrêt à une tentative de modernisation de l'économie qui avait été lancée par Rouhani. Et puis après, il y a une deuxième chose qui a beaucoup pénalisé Rouhani dans ses réformes, c'est la baisse des prix du pétrole, qui a fait que les revenus étant bien moindres, il a été obligé de réduire les mesures sociales,
tout
il est en train de remonter
sérité.
les prix du pétrole, et c'est ça aussi qui entraîne un certain ras-le-bol et qui fait qu'aujourd'hui ça craque, mais c'est des manifestations de nature très différente de ce qu'on a pu connaître en 2009.
Nigel Coulthard, donc à la tête du cercle Iran Économie, les difficultés économiques du moment, on a abordé un certain nombre d'explications. L'économie iranienne, elle n'est pas non plus complètement au fond du trou. C'est pas l'économie du Venezuela ou d'un autre pays. L'Iran qui a renoué avec la croissance, 6,5% en 2016, 3% estimé en 2017. On va voir ce qui va se passer évidemment en 2018, mais on est vaguement dans les mêmes ordres d'idées. Qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui ne va pas dans cette économie?
Je pense que ce qu'il faut bien noter, c'est que il y a eu une période vraiment de mauvaise gestion sous Ahmadinejad. Et on ne peut pas effacer le résultat de ça toujours au lendemain. Rouhani, depuis qu'il est en place, a ramené l'inflation de 40, certains disent 50% par an, à moins de 10. Voilà. Il a également réétabli les exportations de pétroliers, d'accord, qui étaient complètement coupées pendant 5 ans. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a eu entre 2012 et 2013, une perte de pouvoir d'achat de l'ordre de 150%, avec une dévaluation de 75%. La pauvreté, la seuil de pauvreté est passé de 20% de la population à plus de 40%, d'accord? Et ça, dû à la gestion de l'Ahmadinejad, et puis également aux sanctions.
Bien sûr, à l'embargo, bien sûr.
Rouhani comptait sur une réouverture de l'économie. Il a mis en place une rigueur monétaire et fiscale. Cependant, l'envolée de l'économie, et là où on peut faire une reproche à Trump, les banques européennes et occidentales n'acceptent pas de travailler avec l'Iran.
Bien sûr.
Donc la situation est les grosses sociétés hésitent encore. Vous avez des PME, vous avez beaucoup de sociétés, des PME allemandes qui sont présentes. Vous avez quelques grandes entreprises, mais je dirais, Rouhani souffre aujourd'hui de cette de la politique américaine.
Américaine qui, quelque part, conduit à restreindre donc l'accès au crédit de la part des banques occidentales. Je cite Georges Malbruno, grand reporter au Figaro, qui expliquait ce matin, qui pointait la frilosité des banques françaises, justement, à financer le renouveau économique iranien. Il cite un haut responsable, Airbus et Peugeot recourent à des banques italiennes pour leurs investissements chez nous. Voilà. Azadekian.
Oui, tout à fait. On sait que les entreprises françaises, de toute façon, et les banques hésitent par peur d'être sanctionnées par les États-Unis. Et donc, on sait aussi que, effectivement, comme ça a été dit, Rouhani avait beaucoup compté sur les investissements étrangers. Il avait promis que les Européens seraient là, qu'ils allaient investir, qu'ils allaient importer la technologie nouvelle en Iran et des centaines de milliers de créations d'emplois. Et donc, les gens attendaient. Il y avait à ce moment-là, il y a un an de ça à peine, énormément d'espoir dans la société iranienne chez ces mêmes jeunes qui sont très instruits pour une partie. Et donc aujourd'hui, c'est le désespoir, c'est la désillusion et les gens sont en colère, je vous le disais, pas seulement contre le gouvernement iranien, mais aussi contre justement les Européens qui étaient censés être là. Et donc, c'est un peu l'ambiance générale qui fait que même si l'économie iranienne n'est pas, comme vous dites, effectivement au fond du gouffre, mais quand il n'y a pas d'espoir, l'économie ne fonctionne pas non plus. Et là, on en est là. C'est-à-dire que de nouveau, on a l'impression, moi je ne suis pas économiste, mais j'ai l'impression que de nouveau, on est revenu à la situation sous les sanctions.
Ouais.
C'est ça l'ambiance, si vous voulez.
Alors que Bernard Rocade, on a vu quand même un certain nombre de fleurons débarquer en Iran l'an dernier. Je pense à Air France, qui va arriver aussi avec June au mois de février. Accor aussi, Renault, Peugeot, etc. Enfin bon, il y avait tout un mouvement. Et puis là, déception, c'est freiné, c'est ça?
Tout le monde est parti, la fleur au fusil, pour dire l'Iran est un pays merveilleux, il y a des possibilités extraordinaires, et c'est vrai, on a une société sophistiquée, un gouvernement qui tient la route, qui contrôle assez bien les choses sans trop de drames. Donc bref, l'Iran était avec feu vert dans tous les domaines. Et les Iraniens disaient, ça y est, on est enfin sortis, Ahmadinejad s'est passé, on va essayer de réparer cela, ça va avancer. Et ceux qui disaient il y aura des difficultés pour réformer les structures de l'économie iranienne qui pendant 40 ans a été dans un bunker enfermé, etc. S'il y a une ouverture extérieure, ça va débloquer la situation. Donc, ils ont été extrêmement déçus, et c'est ça l'expression que l'on voit aujourd'hui, par le fait qu'aux États-Unis il y a un changement de politique. Et ce changement, autant la réforme en Iran, ça prendra du temps, autant une décision de Trump, ça prend 10 secondes pour signer ou ne pas signer un waiver. Et donc, la clé aujourd'hui, je crois, en Iran, c'est certes des réformes intérieures qu'il faudra faire, mais ça, c'est une bagarre intérieure qui prendra du temps. La balle, pour nous, Européens, aujourd'hui, et les Iraniens actuellement, appellent au secours les Européens, en disant, nous, on fait ce que l'on peut, côté américain, on ne peut rien faire, vous, Européens, et Monsieur Macron en particulier, si vous n'êtes pas tellement d'accord avec Monsieur Trump, essayez de lui dire, ou faire pression pour que ça bouge, et c'est pour ça que dans cette situation, paradoxalement, la France et les Européens ont une carte à jouer.
Oui, enfin, une carte, allez-y, Azadekian, puis je vous repose juste une question derrière.
Effectivement, l'Europe a une carte à jouer, mais je veux dire, afin aussi que les investisseurs européens puisse aller en Iran indépendamment des sanctions américaines. Il faut que les gardiens de la révolution arrêtent d'imposer leur mainmise sur l'économie iranienne. Écoutez, vous posez la question aux entreprises françaises qui sont sur place, elles vous disent mais on ne sait pas jusqu'où s'étendent le pouvoir des gardiens de la révolution, le pouvoir économique, le pouvoir financier, où est-ce qu'on peut aller. Vous discutez avec les entrepreneurs privés iraniens, ils ont exactement les mêmes problèmes. C'est-à-dire que ce sont les gardiens de la révolution, la fondation Khatam al-Anbiya qui obtient pratiquement toutes les appels d'offres, y compris gouvernementaux et surtout gouvernementaux. Et les entrepreneurs privés iraniens ne ramassent que des miettes. Et tout ça, effectivement, ça influe sur l'économie.
Vous avez raison, c'est vrai que, je veux bien que Trump ait ses responsabilités, mais que les Iraniens aussi balayent quelque part devant leur porte. Parlons justement de ce pouvoir, de cet État dans l'État que constituent les gardiens de la révolution. Vous l'avez dit, Bernard Roucade, vous l'avez dit, Azadeh Kian, donc, c'est le corps d'élite du régime. On les a vus, ils sont manifestés hier, justement, pour pousser des partisans en faveur du gouvernement. C'est le pilier de la République islamique, depuis presque 40 ans, puisqu'on est en 2018. Force militaire autonome, force politique, avec des élus au Parlement, des membres dans les cabinets ministériels, force militaire, ils surveillent tout le détroit d'Hormuz, justement, ils s'occupent de le contrôle de la fabrication des missiles balistiques. Et puis c'est une puissance économique qu'on voit partout. Ils construisent des barrages, des routes. Ils détiendraient le tiers de l'économie. C'est quantifié, ça on l'a prouvé, on l'a expliqué. Bernard Roucade, Benjamin Louvet.
Alors, les gardiens de la révolution sont une force très importante, c'est évident. Je dirais que la question est encore plus grave que cela, ou plus vaste. La guerre Irak-Iran a fait pas mal de morts, mais encore plus d'anciens combattants. Et dans tous les anciens combattants de la guerre
Irak-Iran... Et des enfants.
Il y avait les militaires, les gardiens de la révolution et tous les petits miliciens. Autrement dit, aujourd'hui, les gens qui ont 60 ans en Iran, qui ont fait la guerre Irak-Iran, un petit peu ou beaucoup, ont bénéficié après la guerre, ce qui est normal, d'avantages divers. Et les gens les plus importants ont effectivement les avantages économiques, des prêts sans intérêt, leur en permettant de rentrer dans l'économie. Autrement dit, il y a tout ce groupe de gens très importants qui ne sont pas forcément des gens malveillants, mais qui ont le pouvoir économique, et ce pouvoir économique leur a été donné par le système. Et donc, ils sont très proches en même temps des institutions, du gouvernement. Les gardiens de la Révolution sont un ministère, qui les aide effectivement, parce que c'est un vieil ami, ancien combattant, à qui je donnerai un contrat. Et donc, il y a une interpénétration de l'administration et même des gardiens de la Révolution en tant qu'institution, avec l'argent qu'ils contrôlent, et de tout le réseau des anciens combattants qui sont des gens proches. Ce qui crée un système extrêmement complexe et opaque.
Alors, Benjamin Louvet, oui. Nigel Coulthard, toujours sur ce point.
Je suis d'accord. Au-delà de ça, il faut voir ce que c'est l'économie iranienne. Aujourd'hui, l'Iran, c'est 80 millions d'habitants. C'est 60% de personnes de moins de 35 ans. C'est 800 000 jeunes qui arrivent sur le marché du travail tous les ans, avec un secteur public ou parapublic qui représente bon an mal an, on va dire 70-75% de l'économie. Les Boniades, par exemple, qui sont des confédérations qui sont affiliées aux gardiens de la Révolution, représentent 25% à peu près de l'économie. Donc c'est une économie qui est extrêmement fermée. Et c'est là, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'ouverture quand même et les problématiques des sanctions. Vous disiez tout à l'heure que les banques françaises ne veulent pas y aller. Les banques françaises ne veulent pas y aller parce qu'il y a l'exemple de BNP qui s'est quand même pris une amende record il y a quelques années.
Quoi, 5 ans à peu près.
Alors il y a quand même quelques entreprises qui essayent de le faire. Vous avez Total qui a signé un contrat pour exploiter le champ de South Pars, qui est quand même le plus gros champ gazier au monde.
On n'a rien fait encore pour l'instant.
Oui, mais pour l'instant, le contrat est tenu et il a l'air de tenir. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Total a eu cette astuce de ne pas se faire payer en dollars, mais de se faire payer en pétrole. Et après, normalement, on devrait vendre ce pétrole pour pouvoir toucher de l'argent. Donc, on est obligé de recourir à des astuces. C'est extrêmement compliqué. Mais là, le marché est trop tentant pour que Total n'essaye pas d'y aller. Mais voilà, on a une économie qui est extrêmement fermée. Vous avez raison, il faut que les Iraniens balayent devant leur porte. Mais c'est très difficile à faire tant qu'on a ces sanctions qui empêchent les investisseurs étrangers de venir.
D'où la difficulté de faire des affaires sur place. Vous conseillez des entreprises, Nigel Coulthard, à la tête de Oroch.
Oui, je pense que ce qu'il faut bien comprendre, si on veut comprendre le dynamique interne politique en Iran, il faut savoir que Rouhani était entré en conflit ouvert contre les patrons des gardiens de la révolution et puis toutes les sociétés liées à cela cet été. C'était une guerre ouverte. Et je pense, pour comprendre l'Iran, il faut comprendre, je veux dire, la résistance. Que ça soit les gardiens de la révolution, mais également les Boniades, également les Shasta, je veux dire, les fonds d'investissement propres iraniens qui sont très proches des milieux conservateurs. Et Rouhani a vraiment du mal à faire bouger les choses. Ce n'est pas difficile, c'est pas facile. Comme Bernard a expliqué, les gardiens de la révolution ont obtenu une certaine autorité après la guerre Iran-Irak, qui était malheureusement renforcée pendant les sanctions. Parce que on peut estimer que la moitié du secteur privé a été repris par les gardiens de la révolution ou par Khatam al-Anbiya.
Qui est-ce ?
C'est le holding industriel des gardiens
d'accord,
de la révolution.
D'accord. Azadekian.
Oui, tout à fait, pour aller dans le même sens, mais Rouhani s'est fait réélire sur la base de ses promesses-là.
Au printemps dernier.
Au printemps dernier, sur la base de ses promesses-là, c'est-à-dire réduire la marge de manœuvre économique des gardiens de la révolution, donner davantage au secteur privé afin de réformer, si vous voulez, l'économie iranienne. Il a au début essayé, il a échoué, il n'a pas persisté. C'est-à-dire que Rouhani a énormément, à la fois au plan économique et aussi politique, énormément de déçus parmi ses électeurs parce qu'il n'a fait qu'obéir au diktat du guide et dont les gardiens de la révolution qui sont soutenus par le guide. Monsieur Jaafari à la tête des gardiens de la révolution est très proche du guide. Quand on parle des gardiens de la révolution, il ne faut pas oublier, moi j'en ai eu beaucoup de ces gardiens de la révolution ordinaires dans mes enquêtes en Iran, qui sont tellement pauvres qu'ils sont obligés de travailler les jours fériés afin de gagner leur vie. Attention, les gardiens, c'est 120 000 hommes, dont la majorité écrasante, qui a du mal, comme les autres Iraniens,
à joindre les deux bouts. D'accord.
Bon, mais donc ça reste une élite à la tête des pastarans qui bénéficie, juste des gardiens, qui bénéficie de la manne pétrolière. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il avait promis autre chose aussi, Rouhani, et finalement, quand le guide lui a dit non, il a dit d'accord. C'est-à-dire qu'il aurait pu, à mon avis, quand il est face à ce refus catégorique, il faut qu'il soit, qu'il vienne dire à ses électeurs, j'ai essayé, j'ai échoué, et donc, voilà, donc je jette l'éponge. Il ne l'a pas fait. Et donc, c'est ça qui aussi fait que cette situation a perduré.
Déception, déception. À nouveau, voilà, vis-à-vis du président réélu. Bernard Oukad.
Le gouvernement de Rouhani est un gouvernement de coalition, entre la droite et la gauche en même temps.
Il n'y a donc pas de gauche dans son gouvernement.
Gauche. En fait, gauche non, je veux dire, il a un certain nombre de
gens. Rouhani lui-même est
un jeu de mots avec ce qui se passe en France.
Il a un certain nombre de gens qui sont des technocrates, qui essaient de gérer rationnellement l'économie, etc. Et de l'autre côté, il a des gens très conservateurs dans son gouvernement. Il essaie de tenir d'être conciliant. Mais beaucoup de gens disent qu'aujourd'hui, comme Azadeh le signalait, il est bloqué, il ne fait rien. Et donc, les gens leur disent, Monsieur le Président, je vous en prie, prenez une décision. Et c'est pour ça que je pense que les événements de ces jours-ci sont extrêmement utiles si Rouhani a le courage, de dire, regardez, monsieur le guide, je fais mon travail, je ne peux pas avancer, Trump m'embête d'un côté, à l'intérieur ça ne va pas, les gens ne sont pas d'accord, si ça continue, ça ira mal, donc laissez-moi gouverner.
Alors, qui est-ce pouvoir en Iran. Qu'est-ce qui a sifflé en quelque sorte la fin de la partie, je veux dire, ces manifestations qui sont dans une sorte de pause quelque part. Rouhani, il est en difficulté ou il détient encore du pouvoir?
Rouhani, il a un pouvoir, il est président de la République, il n'a pas rien comme pouvoir. Il ne s'agit pas de dire que tout dans les mains du guide, ça ne veut rien dire. Il y a un Iran, justement, malgré tout, c'est une république islamique, c'est aussi une république, il y a des rapports de force, on vient de le voir avec ce qui vient de se passer. La société iranienne est là, les gardiens de la révolution, Azadeh le signalait, sont d'un côté des gens très riches, mais aussi des gardiens de la révolution qui sont d'anciens combattants, qui sont soumis à la situation de tout le monde. Donc, c'est extrêmement divers. Ce qui vient de se passer, ce cri d'alerte de la population la plus pauvre d'Iran est un élément important, même idéologiquement. Khomeini avait fait la révolution pour les déshériter. Les déshérités aujourd'hui disent on ne s'y reconnaît pas. Donc même idéologiquement, ce sont des éléments qui pourraient être récupérés par Rouhani pour dire, regardez, restons fidèles à notre idéal et faisons quelque chose. Mais est-ce que le rapport de force est là-dedans? Je n'en sais rien pour l'instant.
Alors Azadeh Kian, et puis allez-y, Nigel Coulter, juste après.
Non, mais justement, Rouhani a très bien réagi, je pense, en tant que président de cette république islamique, au début, quand il a pris la parole en disant, les manifestants ont des revendications légitimes. Mmh. Et d'ailleurs, c'est pas seulement des revendications économiques, il a dit, mais aussi politiques. Mmh. 2 jours plus tard, le guide Khamenei prend la parole en disant, il s'agit des éléments étrangers qui sont manipulés par les étrangers. Mmh. Et depuis, Rouhani ne dit rien. Ouais. C'est fini l'ouverture politique.
Il a pu être en difficulté, Rouhani, depuis une semaine ou pas? Il a été en difficulté?
Il a été en difficulté. Oui. D'ailleurs, ça a commencé, les manifestations ont commencé à Mashhad, justement par les détracteurs de Rouhani. Et le slogan principal était « Mort à Rouhani ».
Grande ville sainte, donc du nord-est du pays.
Deuxième ville du pays, etc. Mais après, ça s'est répandu à d'autres grandes villes et petites villes du pays, là où vraiment ce sont des jeunes qui sont descendus dans la rue. On n'a plus entendu parler « Mort à Rouhani », mais « Mort à Khamenei », le guide. Donc, ça a changé. Mais Rouhani n'a pas essayé de profiter, si vous voulez, de cette situation, puisqu'il pense qu'à l'heure actuelle, les rapports de pouvoir au sein du gouvernement, au sein de l'État, ne sont pas en sa faveur, probablement.
Parce que quand on vous écoute, Bernard Ourcade ou Azadeh, on dit, bon voilà, ils vont peut-être s'y tirer des leçons, de la grogne. Et le discours des autorités, quand même, depuis une semaine, c'était quoi? C'est de dénoncer l'étranger, les États-Unis, les Saoudiens, les Moudjahidines du peuple en France. Plutôt que répondre aux préoccupations sociales, on préfère parler de sédition plutôt que crise sociale. On essaie de tout ramener aux politiques. Comment est-ce qu'ils auraient dû réagir plus vite, Azadeh?
Entendre les... parce que c'était les cris réellement de la part de ces manifestants de dire « nous sommes pauvres ». Nous sommes démunis, nous sommes marginalisés, etc. Allez voir qui sont ces jeunes. Les parents de ces jeunes sont ceux qui ont participé à la guerre Iran-Irak, qui ont donné des martyrs. Ils le disent. Et donc, si vous voulez, c'est le régime de la République islamique qui n'est plus un régime révolutionnaire. Ce sont ces gens-là qui sont révolutionnaires, qui réellement tentent de redire ce que les autres disaient en 79, au moment de la révolution.
Mais derrière, il n'y avait pas de revendication, j'allais dire, démocratique, de liberté, de remettre en cause la République islamique durant cette semaine ou pas?
Ils ont remis en question, ils ont revendiqué la République iranienne. Ils ont mis en question l'islam politique, pas l'islam, mais l'islam politique. L'islam politique, d'une part. D'autre part, effectivement, ils ont dit qu'ils souhaitent aussi davantage de liberté. Tout ça, on en a entendu. Et de toute façon, ça fait partie des revendications. Vous savez, le mouvement vert est silencieux peut-être aujourd'hui, mais il n'est pas mort. Et en 2009,
le mouvement réformateur de l'ancien président,
de 2009, aussi avait la revendication principale, les libertés tout et l'ouverture politique. Donc c'est un ensemble qui, alors, ça a fait peur aux gens de régime, y compris à Rouhani. Donc au lieu de vouloir répondre à ses revendications, et il se barricade et il accuse l'étranger.
Alors, Nigel Coulthard, Bernard Ourcade, et puis on fait une pause, on reviendra juste après. C'est passionnant ce qui se dit ce soir sur l'Iran, très intéressant. Nigel Coulthard.
Je pense qu'il ne faut pas imaginer que, si on imagine encore, que le pouvoir iranien est homogène.
D'accord.
C'est très très complexe. Et le guide suprême est avant tout un arbitre. Je pense qu'il est là pour essayer de bouger avec le vent et d'attraper, je dirais, la tendance le plus dominant. Donc, si vous semblez demander s'il y a, qu'est-ce qu'on aurait pu faire, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire, le problème c'est que il n'y a pas un pouvoir. Il en a 5 ou 6 tendances. Et peut-être Rouhani, avec du temps, va pouvoir récupérer et utiliser ces manifestations. Le problème, c'est que il n'y a pas quelqu'un réellement à la tête. Il y a un arbitre à la tête. C'est pas lui qui définit les règles.
Le guide suprême, Bernard Ourcade, quand même, dont le portrait a été brûlé. C'est un échec aussi pour lui.
Oui, mais attendez.
Quand
il y a une manifestation, et on voit les vidéos que vous montrez, les gens profitent de la manifestation pour déverser toutes les revendications qu'il peut y avoir. Donc, c'est pas ça l'important. L'originalité de ce mouvement, comme Azadeh le disait, ce sont les fils des révolutionnaires qui ont 30 ans, qui disent ça, le compte n'y est pas. Et les réactions du gouvernement, ça vient de se passer aujourd'hui. Donc, ils sortent des vieux slogans. C'est le complot de l'étranger, c'est à cause de ceci, cela. Ça, c'est du cinéma de politique politicienne. Les événements doivent maintenant être décodés à l'intérieur. Et je suis d'accord avec Nigel Manson pour...
Nigel Coulthard.
Pour dire que, effectivement, le guide sur le nucléaire, il n'était pas d'accord avec l'accord sur le nucléaire, a priori. Mais bien contraint et forcé, il a dû accepter. Aujourd'hui, un nouvel événement se passe. C'est quelqu'un d'intelligent, qui est assez habile pour garder le pouvoir. et pour garder le pouvoir, on peut espérer que les rapports de force, qui ne vont pas se passer en trois jours, amèneront peut-être à un arbitrage.
Bon, on se retrouve dans un instant. Vous avez fait un mélange entre Nigel Mansell, David Coulthard, voilà. Donc, Nigel Coulthard qu'on va retrouver, l'ancien président d'Alstom en Iran, et puis avec Azadeh Kian, Benjamin Louvet, Bernard Cat, les décodeurs de l'écho reviennent très très vite. Est-ce que l'Iran redevient un pays à risque? À tout de suite.
L'écho, c'est clair sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Bon, qu'est-ce qui va se passer en Iran? Bon, une sorte de statu quo au moment où on se parle avec des manifestations, des rassemblements plutôt pro-régime organisés depuis hier, donc notamment par les gardiens de la révolution. Puis les manifestants donc qui manifestent contre le coup de la vie, qui disent qu'ils sont déçus quelque part eh bien de cette austérité imposée par le président de la République réélu l'an dernier, Monsieur Rouhani. Puis quelque part en filigrane, eh bien les rétorsions de Trump, hein, qui considère que l'Iran est un petit peu le diable, hein, depuis qu'il est arrivé à la Maison Blanche. Ben, on met entre parenthèses, quelque part, leur manifestation. Alors, jusque quand? On va voir. Hein. Tiens, est-ce que ça peut dégénérer, juste Bernard Ourcade, quand on entend Madame Shirin Ebadi, qui est prix Nobel de la paix, qui appelle à la désobéissance, quelque part? Est-ce que l'armée se tient prête? Est-ce que des forces de sécurité quelconques?
On peut tout dire de l'extérieur, mais les choses sont plus simples que ça, plus banales, je dirais. Il y a un problème économique important, des relations avec les États-Unis qui sont difficiles. La désobéissance civile supposerait un mouvement puissant, avec bien structuré, qui lance un mouvement. On sait très bien que le mouvement des femmes, en particulier, Xavier, pour en parler, ont mobilisé des forces importantes, mais ça vient de l'intérieur, pas de l'extérieur.
C'est pas un mouvement de grande ampleur, quand même, Azadeh Kian.
Ce qui se passe actuellement, oui. Non, on l'a bien vu. Encore une fois, c'est pas pour moi. À mon avis, c'est pas un mouvement social. Mais de toute façon, c'est vraiment pas dirigé depuis l'étranger. Oui. Et d'une part, d'autre part, je pense que peut-être quand on est prix Nobel de la paix, on défend les droits humains. Mmh. Il vaut mieux que chacun soit à sa place.
Le président Erdogan, présent à Paris, président turc, cet après-midi, il expliquait « Des étrangers se livrent à des provocations en Iran ». Et c'est vrai, c'est ce qu'on a entendu, le pouvoir qui a pointé la main de l'étranger, d'une minorité de contestataires. Les États-Unis, l'Arabie Saoudite, les Moudjahidines du peuple, réfugiés à Auvers-sur-Oise, cette espèce de groupe islamo-marxiste. Donc, il y a eu un entretien entre Macron et Rouhani. Bon, ça, c'est une vieille querelle entre la France et l'Iran, hein, Bernard Roucal.
La main de l'étranger, bon, c'est un truc de politique politicienne. Voilà. Erdogan
on
parle
joue sur la peur d'étranger.
Soyons sérieux. Il y a des choses sérieuses qui se passent en Iran.
Voilà. Ça, c'est de la propagande, peut-être. Benjamin Louvet, donc, gérant matière première chez Office Asset Management.
Dans quelle lutte, Fabrice, à qui profite le crime si jamais l'étranger était derrière ces manifestations? On le notait, elles sont assez désorganisées. C'est pas des mouvements extrêmement bien structurés, ce qui discrédite un petit peu cette théorie. Mais au-delà de ça aurait quoi comme conséquence? Le but c'est quoi? Ça serait de déposer le gouvernement Rouhani pour se retrouver avec quoi? Avec des conservateurs à la place? Je suis pas sûr que ce soit dans l'intérêt d'une stabilisation de la région. Alors sauf à ce que le but caché, ça soit de pouvoir désigner un ennemi, un axe du mal, et pouvoir pointer du doigt l'Iran et justifier une intervention. Mais je pense que ça serait un très très mauvais calcul.
L'argent que dépense l'Iran dans un certain nombre d'opérations extérieures, et on en parle depuis maintenant 2 ans, spécialement la lutte contre l'État islamique, le soutien au président Bachar al-Assad, donc en Syrie, l'Irak, bien entendu, le soutien houthi. Est-ce que ça, quelque part, ça pèse aussi sur les problèmes économiques de l'Iran et peut-être la rancœur de la population?
Bien sûr, ça pèse sur la rancœur, c'est ce que disait Azadeh Kian tout à l'heure. Quand on parle d'islam politique, le rôle de grand frère chiite que cherche à jouer l'Iran sur l'ensemble de la région.
Jusqu'au Liban, jusqu'au
arc chiite, entre guillemets, parce que bon, c'est contestable, les amène à avoir beaucoup de dépenses à l'extérieur, et ces dépenses à l'extérieur, les Iraniens aujourd'hui se disent tout cet argent, c'est de l'argent qu'on n'a pas pour nous. Donc effectivement, ça pose un vrai problème, et ça faisait partie des revendications, en tout cas des slogans qu'on a pu entendre.
Bernard Ourcade, directeur de recherche au CNRS.
Il est certain que l'action extérieure de l'Iran dans le réseau islamique n'est pas très populaire en Iran actuellement. Le soutien au Hezbollah, on l'a vu après la guerre de 2006, l'Iran a financé la reconstruction du Sud-Liban, et les gens de Bam, qui ont été leur maison détruite par le tremblement de terre quelques années plus tard, étaient toujours dans des gourbis. Ils disaient, donnez-nous $10,000 à nous. Donc il y a un nationalisme iranien qui dit, occupons-nous de la maison. Ça, c'est général. Mais une deuxième chose importante aussi, il faut bien dire que la guerre de l'Iran en Syrie et en Irak était contre Daesh, qui est en France la priorité politique. Et il faut bien considérer qu'aujourd'hui, sur le terrain, ce sont les Iraniens avec les Kurdes qui, sur le terrain, ont écrasé Daesh. Et donc, si nous n'avons pas d'attentat en France, si Daesh est en train d'être défait, ce n'est pas à cause de l'air du temps, ni des Américains, ni des Saoudiens, c'est à cause des Iraniens. Et donc, il y a une certaine équilibre à avoir. Normalement, les Iraniens disent, occupons-nous de nos affaires, tout ce réseau chiite, tournons la page, n'allons pas trop loin, mais ils constatent aussi qu'il fallait faire le boulot et qu'il fallait faire ce travail-là. Donc, il y a, ce n'est pas essentiel, je crois, dans le système, et le coût de cette guerre, ça coûte cher, mais hélas, le problème du pétrole et les questions de structure, de réforme de la politique économique iranienne sont beaucoup plus importants que les masses d'argent dépensées, même si c'est très important.
Il y a eu un échec pour diversifier l'économie, donc qui repose quand même toujours sur la manne pétrolière à Zadegan.
Sur la manne pétrolière, bien évidemment, mais quand même sur Rouhani, il faut le dire, à l'industrie pétrochimique ou les dérivés de l'industrie pétrolière aussi ont commencé à de nouveau être produits. Et même exporté. Et donc, il y a une diversification depuis 2013, mais depuis surtout la levée des sanctions. Juste. Il y a une diversification, effectivement, des exportations iraniennes, mais pas encore suffisamment repose quand même sur les revenus pétroliers.
Sur le pétrole, simplement, on le rappelait tout à l'heure, Benjamin Louvet, vous êtes un spécialiste des matières premières chez Ophi Asset Management, on le disait donc. Ce sont les troisièmes réserves mondiales, donc le pétrole. Est-ce que l'Iran a constitué un facteur de risque depuis une semaine sur les marchés pétroliers?
Alors, j'ai pas vraiment l'impression. En réalité, le marché du pétrole est resté assez calme. Il a continué à progresser, mais il a surtout progressé parce que, alors qu'on est en pleine saison hivernale et que, même si à nous, ça peut nous paraître un peu bizarre, occidentaux, c'est la période où on a plutôt tendance à reconstituer les stocks de pétrole. Ça fait plusieurs semaines consécutives que les stocks de pétrole au niveau mondial ont tendance à reculer. En tout cas, les stocks américains, eux, reculent. Et donc, le marché se dit, finalement, la politique menée par l'OPEP et par un certain nombre de pays ralliés est en train de fonctionner. Je pense que la situation en Iran n'a pas été suffisamment grave pour que le marché en tienne vraiment compte. Maintenant,
les infrastructures n'ont pas été impactées par les manifestants. Et d'ailleurs, l'Iran a bien communiqué là-dessus en disant regardez.
Bien sûr, mais c'est le gros avantage. Alors sur le plan du pétrole, l'Iran a été un peu béni des dieux parce qu'en réalité, il se retrouve l'ensemble des champs pétroliers iraniens se trouve sur la côte occidentale, au bord du golfe Persique. Donc en fait, avant que les exportations soient compliquées, impactées, il faut vraiment qu'il y ait un problème grave. Ce qu'on aurait pu avoir comme problème, c'est une grève générale. Ça aurait pu avoir un impact. Ouais. Mais au-delà de ça, vous avez beaucoup des raffineries qui sont situées sur la côte du Golfe Persique. Vous avez des terminaux d'exportation qui sont sur la côte du Golfe Persique et la production est sur la côte du Golfe Persique. Ça a un autre avantage, c'est que dans d'autres pays, on l'a pu le voir en Libye encore il n'y a pas longtemps, on peut faire sauter des pipelines pour gêner l'exportation des produits. En Iran, l'essentiel des pipelines sont pour ramener la production pétrolière vers l'intérieur pour la consommation intérieure. Donc en fait, ce type de stratégie ne fonctionne pas. Finalement, de ce côté-là, l'Iran est plutôt bien loti et ne constitue pas sur cette problématique de soulèvement
de
populaire
tension,
un vrai problème pour le marché du pétrole. Juste. Ce qui va compter plus, c'est effectivement l'attitude de Donald Trump la semaine prochaine alors, s'il décide de réinstaurer des sanctions. Là, ça peut être un vrai problème.
Alors justement, Nigel Coulthard, à la tête du cercle Iran Économie, vous qui conseillez notamment des entreprises, c'est un pays instable qui réapparaît, l'Iran. Est-ce que l'économie iranienne reste à risque? Est-ce qu'on va encore avoir envie d'investir en Iran ou pas?
C'est une société qui est déjà, par rapport à ses voisins, une société relativement stable et industrialisée. Il n'a pas récupéré son niveau d'avant les sanctions, où le PIB était de l'ordre de 65 milliards. On est en dessous de 500 aujourd'hui. L'industrie a souffert pendant les sanctions, mais l'infrastructure n'est pas détruite.
Elle est là.
D'accord. Donc, je pense qu'avant tout, la question qui se pose, c'est que est-ce que Trump, qui est un petit peu un franc-tireur irresponsable, imprévisible, est-ce que son jeu est-ce que ses actions va faire le jeu des conservateurs en Iran? Et cela, je pense, malheureusement, cela risque de donner une instabilité au pays.
Trump qui prétend c'est le moment du changement à Téhéran. Est-ce que les États-Unis de Trump vont en profiter pour se durcir un peu plus vis-à-vis de ce pays qui est montré quelque part comme le diable, comme un soutien au terrorisme? On se souvient de ce discours au Riyad, je crois, de mémoire, donc juste avant l'été. Azadekian.
Écoutez, les Iraniens sont très nationalistes et ils sont très contre l'ingérence étrangère, surtout de la part des États-Unis et de l'Arabie Saoudite. qui sont aujourd'hui effectivement les principaux ennemis de l'Iran, c'est-à-dire en ce qui concerne justement la prospérité économique de ce pays. Ça, les Iraniens lambda aussi le savent. Donc, je pense que effectivement, les interventions récentes de Trump, son soutien pour les manifestants, a été très contre-productif finalement par rapport à ces manifestants et à leurs revendications. D'une part, d'autre part...
Maintenant, s'il durcit le discours et qu'il passe aux actes la semaine prochaine.
Ça tombe sur la société, c'est-à-dire que les sanctions internationales, les sanctions américaines ont été tout d'abord... contre la société iranienne, contre le peuple iranien. Ce sont les classes moyennes et les classes populaires qui en ont souffert. Ce n'est pas le régime qui a continué à prospérer. Donc, effectivement, tout ça, c'est... Mais en même temps, je voudrais juste ajouter à ce qui a été dit que l'Iran, il ne faut pas oublier la société iranienne, on le dit, c'est une société jeune et très bien formée. Il y a une classe moyenne très, très bien formée et opérationnelle. C'est-à-dire que vous ouvrez une entreprise en Iran, le lendemain, vous avez votre force de travail formée, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de pays de la région. Donc l'Iran a énormément, la société iranienne a énormément de potentiel aussi pour progresser au plan économique.
Alors Benjamin Louvet, Bernard Ourcade.
D'une façon plus générale, au niveau de l'économie plus globale, j'ai deux problèmes. Le premier, c'est que on est aujourd'hui dans une économie où le pétrole va se raréfier dans les années à venir. Ça peut paraître un peu bizarre aujourd'hui de dire ça, mais il va se raréfier et on va avoir besoin du pétrole iranien. Avec la situation qui se passe avec les Occidentaux, le pétrole iranien part de plus en plus vers la Chine et vers l'Inde. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, si Trump renforce ses sanctions, on va avoir un bloc qui risque de se créer de plus en plus entre les Occidentaux et les Saoudiens face aux ennemis des Saoudiens que sont les Qataris, les Iraniens et les Russes. Or, les Iraniens, les Qataris et les Russes, à eux trois, représentent plus de 50% de la production mondiale de gaz. Ça veut dire quoi? À l'heure où on cherche à se débarrasser de la dépendance au pétrole, on est en train de se couper de 50% du marché mondial du gaz. Et ça, ça pose un vrai problème dans le cadre notamment de la transition énergétique, qui est un vrai sujet aujourd'hui.
Et peut-être de nouvelles alliances, ou en tout cas des alliances actuelles qui peuvent se renforcer par lien d'ingérence. Moscou, aujourd'hui, invite Washington à pas interférer en Iran. La visite de Erdogan, ce jeudi, à Paris, donc président turc, voilà, qui manifestement a pris fait et cause pour le régime, pour le pouvoir à Téhéran. Il va y avoir un resserrement des liens Iran, Turquie, Russie. C'est aussi l'une des conséquences de cette tension, Bernard Ourcade.
Exactement. Si Trump maintient des sanctions dans 15 jours, c'est peut-être l'occasion pour les Européens, je reviens là-dessus, de prendre des décisions, parce que il casse un accord international signé par les Chinois, les Russes, les Européens et tout le monde, qui permettait de stabiliser la région. Il jette de l'huile sur le feu. Et donc, avec la fin de Daesh aussi, les Européens commencent à regarder un rééquilibrage de la région. Et c'est là que le voyage du président Macron, qui est proposé toujours en Iran en printemps prochain, est essentiel, parce que ce n'est pas que entre l'Iran et les États-Unis, la France choisira l'Iran et contre les États-Unis, ce n'est pas possible.
Non.
Mais c'est un rapport de force important. Et dans un pays comme l'Iran, qui n'est pas un pays à risque fondamentalement, parce que, on le soulignait, les structures sont là et ça peut marcher, mais la balle est dans notre camp peut-être.
L'Iran redevient un pays à risque ou pas? Oui, non. Bernard Ourcade, Azadekan?
Je ne le pense pas, mais cela dépendra aussi, encore une fois, de la réponse que le gouvernement iranien va pouvoir donner, l'État iranien va pouvoir donner à des revendications.
Il faut qu'il agisse vite, c'est ça, c'est ce que vous dites.
Il faut qu'ils agissent vite, parce que s'ils laissent pourrir la situation, à ce moment-là, ça sera hors contrôle.
Il faut donner des gages. Nigel Coulthard?
Pas un pays à risque, un pays difficile.
Oui.
À cause des Américains.
Il y a du business encore à faire. Vous qui conseillez les entreprises, absolument. Il faut y aller. On peut encore refaire...
Oui,
très bien.
Benjamin Louvet. Non, ce n'est pas un pays à risque aujourd'hui. Et vous posiez la question de savoir si on allait continuer à essayer de faire du business avec l'Iran. C'est un pays de 80 millions d'habitants qui sont plutôt cultivés. Je vois mal comment l'économie occidentale n'essaierait pas à un moment ou un autre de faire du commerce avec ce pays.
Très bien, à suivre évidemment. Merci Bernard Ourcade, qui est directeur de recherche au CNRS, co-auteur de l'Iran au XXe siècle. Avec nous également Azadeh Khian, sociologue franco-iranienne, professeur à Paris Diderot, auteur de l'Iran, un mouvement sans révolution, une question qu'elle avait posée il y a 4-5 ans à peu près. Nigel Coulthard, c'est l'ancien patron de Alstom en Iran, qui est à la tête du Cercle Iran économiste, un think tank, et puis qui conseille des entreprises internationales, à la tête de Auroch. Et puis Benjamin Louvet, gérant matières premières chez Ophi Asset Management, qui intervient régulièrement sur BFM Business, notamment dans Intégral Bourse l'après-midi avec Grégoire Favet. C'est fini pour les décodeurs de l'écho. On revient évidemment très vite.
Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.